Raffi, les 17h à New Delhi, 13h30 à Paris, 2h de moins, temps universel. Et dans une demi-heure maintenant, ce sera le grand journal international avec vous, Olivier Sherman, bonjour.
Bonjour Alban.
Et à la une.
La catastrophe aérienne en Inde, un avion de ligne de la compagnie Air India, avec un total de 242 passagers, membres d'équipage à bord et à destination de Londres, Gatwick, s'est écrasé ce matin au décollage à l'aéroport d'Ahmedabad, dans le nord-ouest de l'Inde. Nous retrouverons notre correspondante à New Delhi dès le début de ce journal. Ensuite, nous verrons le dossier nucléaire iranien et les tensions entre Washington et Téhéran. L'Iran dit qu'il va construire un nouveau site d'enrichissement et augmenter sa production d'uranium. Les États-Unis vont déplacer une partie de leur personnel au Moyen-Orient. Enfin, l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, condamne l'Iran pour non-respect de ses obligations nucléaires.
Et sur ce dossier nucléaire iranien, notre invité dans trois quarts d'heure maintenant, ce sera David Rigoulet-Rose. Il est chercheur associé à l'IRIS, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique.
Nous suivrons ensuite les manifestations aux États-Unis contre la politique migratoire musclée de Donald Trump avec un reportage au cœur des sans-papiers à Los Angeles qui vivent dans la peur d'être arrêtés et expulsés par la police de l'immigration. Et nous verrons qui est Stephen Miller, conseiller ultra puissant de Donald Trump. Enfin, une pluie d'hommages après la mort à 82 ans de Brian Wilson, le cofondateur du célèbre groupe de musique The Beach Boys.
Merci beaucoup Olivier Sherman. À tout à l'heure, midi, temps universel.
RFI, l'Europe à midi.
Et l'Irlande du Nord continue de s'embraser. Troisième soirée consécutive de tensions dans la ville de Ballymena, à une cinquantaine de kilomètres de Belfast. Des violences qualifiées de racistes par la police, insensées par le Premier ministre Keir Starmer. Voiture incendiée, jet de cocktail Molotov contre les forces de l'ordre. Cela fait suite à l'inculpation lundi de deux adolescents de 14 ans pour tentative de viol. Les explications sur place de Clémence Pénard.
Fenêtres brisées, portes enfoncées, depuis lundi soir, des maisons et commerces tenus par des personnes issues de l'immigration sont pris pour cible. Hier soir, c'est un centre de loisirs qui a été incendié par des hommes masqués, comme en témoignent des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, centre où plusieurs personnes avaient été transférées suite aux troubles à Ballymena, puis évacuées plus tôt dans la journée. Ces violences ont éclaté lundi soir, dans la foulée d'une manifestation pacifique après l'agression sexuelle présumée d'une jeune fille. Deux adolescents d'origine roumaine comparaissaient lundi devant le tribunal accusés de tentative de viol. Et trois nuits donc désormais que des émeutiers s'en prennent violemment aux forces de l'ordre, utilisant tout ce qu'ils ont à portée de main, briques, cocktails Molotov ou encore feux d'artifice. Les ministres nord-irlandais ont lancé un appel conjoint au calme, tandis qu'à Ballymena, des habitants ont accroché des drapeaux britanniques à leurs portes, dans l'espoir d'échapper aux attaques. Clémence Pénard, Dublin, RFI.
Et on continue de parler de ces violences en Irlande du Nord avec notre invité ce midi sur RFI. Bonjour Fabrice Mourlon.
Oui, bonjour madame.
Vous êtes professeur à la Sorbonne Nouvelle, spécialiste de l'Irlande du Nord. Ces tensions, ces heurts anti-immigration, ce n'est pas la première fois que ça arrive dans la province de Ballymena.
Non, et même en Irlande du Nord, en fait... Les attaques contre les immigrés remontent un peu aux années 2000-2004, où il y avait déjà une première montée des violences contre les immigrés. Et donc oui, c'est une nouvelle occasion là d'attaques contre les immigrés en Irlande du Nord.
Cette fois, c'est la communauté roumaine qui est visée, comme en 2009 à Belfast. Est-ce qu'on peut dire que le racisme ou le nationalisme sont profondément ancrés dans la société en Irlande du Nord ?
Alors, je présenterai pas tout à fait ça comme ça. Si vous voulez, la société qu'on appelle post-conflit, c'est-à-dire après les accords du Vendredi Saint de 98, a donné une société assez dysfonctionnelle. Puisque, comme vous le savez, donc les institutions sont encore fragiles, même si elles sont à nouveau, elles fonctionnent encore depuis 2023. Mais évidemment, les immigrés, c'est quand même l'Irlande du Nord est un pays qui n'avait pas d'immigrés jusque dans les années 90, et donc c'est vraiment, si vous voulez, la cible privilégiée du mécontentement social, économique et aussi constitutionnel de l'Irlande du Nord, puisque depuis le Brexit, si vous voulez, la communauté loyalistes, enfin unionistes loyalistes, c'est-à-dire les gens un peu plus radicaux, se sentent évidemment menacés, puisqu'il y a quand même derrière une possibilité de réunification qui est agitée depuis longtemps, surtout depuis le Brexit. Et donc voilà, les loyalistes sont quand même une communauté qu'on a toujours appelée une communauté un peu assiégée, c'est-à-dire que ils se sentent toujours menacés de toutes parts. Et donc évidemment, malheureusement, les immigrés, un peu comme dans tous les autres pays en Europe, deviennent les cibles privilégiées du mécontentement social, économique et politique. Voilà.
Certains politiques, principalement des membres du gouvernement, dénoncent depuis quelques jours l'instrumentalisation de la situation pour attiser les tensions raciales. C'est l'extrême droite qui attise ces tensions ?
Alors, l'extrême droite est quand même aussi un phénomène qui prend un peu d'ampleur en République d'Irlande cette fois-ci. Et c'est vrai que il y a plusieurs recherches qui ont été menées sur l'infiltration des groupes d'extrême droite britannique cette fois-ci dans les milieux loyalistes. Donc c'est pas la première fois, si vous voulez, que les loyalistes s'en prennent aux immigrés. Hein, donc il y a aussi cette dimension de l'extrême droite qui s'infiltre un peu dans des mouvements, voilà, contestataires.
Merci beaucoup, Fabrice Mourlon. Je rappelle que vous êtes professeur à la Sorbonne Nouvelle, spécialiste de l'Irlande du Nord.
RFI Midi.
Le Kosovo, lui, va accueillir des migrants, 50 qui ont été expulsés par les États-Unis. C'est le Premier ministre Albin Kurti qui l'a annoncé, car il y voit un moyen de montrer, dit-il, la reconnaissance éternelle du Kosovo envers les États-Unis qui ont toujours soutenu l'indépendance de l'ancienne province serbe. Les explications de Laurent Rouy.
Le Kosovo est le premier pays des Balkans à accepter des migrants expulsés des États-Unis. Si aucun détail n'a pour l'instant été révélé, le Premier ministre du Kosovo précise que le petit pays, l'un des plus pauvres d'Europe, se réserve le droit de choisir ses migrants parmi une liste proposée par les États-Unis. La nouvelle confirme des révélations parues dans la presse nord-américaine plus tôt ce mois-ci qui faisaient état de pression de Washington sur des pays d'Europe du Sud-Est, dont le Kosovo, la Moldavie et la Serbie, pour accepter des migrants. Interrogé, le ministre serbe des Affaires étrangères avait refusé de confirmer ces informations. Notons que les États-Unis ne sont pas les seuls à vouloir transférer des migrants dans les Balkans. L'an dernier, l'Italie inaugurait un centre de rétention pour migrants illégaux en Albanie, tandis qu'en mars, l'Europe ouvrait la voie à la création de centres pour migrants hors de ses frontières, avec les Balkans en ligne de mire. Des politiques critiquées par l'organisation Human Rights Watch. Laurent Rouy, Belgrade. RFI.
En Russie, c'est une valeur que Vladimir Poutine essaie d'inculquer au plus grand nombre, le patriotisme. Pour ça, même le domaine de la culture est mis à contribution. Ce mois-ci, par exemple, les théâtres qui commencent à envoyer l'agenda de la rentrée programment des pièces qui mettent en valeur ce que le chef d'État russe appelle toujours l'opération spéciale. Le cinéma aussi s'y met pour toucher un public aussi large que possible. Anissa El-Jabri, pour l'instant, on ne peut pas dire que le public soit franchement au rendez-vous. Les Russes que vous avez rencontrés ont accepté de témoigner, mais anonymement, leur voix et leur nom ont été modifiés.
Dans la capitale russe, à Saint-Pétersbourg, mais aussi Kazan et jusqu'à Irkoutsk ou Novosibirsk en Sibérie, cette année, chaque grande ville ou moyenne de Russie a vu se jouer dans ses théâtres au moins une pièce dite patriotique, vantant l'effort de guerre de l'armée russe en Ukraine, héroïsant les soldats. Sur le grand et petit écran, on peut aujourd'hui voir des films comme ça, le premier modèle du genre, une histoire d'amour qui se déroule pendant le siège de Mariupol, tournée dans la ville même, présentation sur la première chaîne de télévision de Russie.
Le spectateur voit de lui même la bataille presque tous les jours à la télévision et sur Internet. Certaines scènes du film reprennent littéralement des images de reportage. Voici un char russe résistant à un tir de lance-grenade. Et voilà presque la même scène dans le film. Pour plus d'authenticité, des participants à l'opération militaire spéciale ont été invités au tournage. Rinat Yassinolev a non seulement joué l'un des rôles principaux, mais a également coécrit le scénario. C'est un combattant du légendaire bataillon d'assaut Somalie qui se bat depuis 2014.
Sorti en salle l'année dernière, le film n'a pas explosé le box-office. Au contraire, les Russes continuent à préférer s'évader et regarder des comédies ou des films romantiques. L'audience a du mal à dépasser le cercle des convaincus. Écoutez cette critique d'art.
Le point de vue extrême et très patriotique trouve un débouché artistique, mais je ne vois pas encore une véritable forme d'art. Pour l'instant, ce ne sont que des tentatives. Elles ne sont pas toutes professionnelles. Il y a des films, souvent réalisés à toute vitesse. On voit bien, par exemple, ce qu'on appelle la poésie Z. Mais dans ce domaine, il n'y a tout simplement pas de bons poètes.
La qualité insuffisante est souvent invoquée par ceux qui revendiquent ne pas être intéressés. D'autres refusent ces productions comme ils refusent la guerre lancée par le Kremlin en Ukraine avec parfois des petits gestes, comme celui de cet étudiant cet hiver. Il a laissé un commentaire sur le site internet d'un théâtre de Moscou critiquant la présence de la lettre Z, symbole de l'invasion russe de l'Ukraine sur sa façade. Il a mis plusieurs mois à se décider à répondre à la demande d'interview de RFI via cette note vocale.
Je pense que la guerre en général est quelque chose de mauvais et que celle-ci en particulier est indigne. Donc je n'irai plus jamais dans ce théâtre tant qu'un Z y est suspendu et je n'irai dans aucun théâtre qui soutient publiquement l'opération spéciale. Je pense que se rendre dans un tel théâtre est un soutien indirect. Je ne monterai pas non plus dans un bus avec la lettre Z. Je sais bien que dans la situation actuelle, il est extrêmement difficile de ne montrer aucun soutien, que tout le monde est sous une pression folle, mais je pense que n'importe quel théâtre peut quand même se permettre de ne pas accrocher une énorme lettre Z sur sa façade.
Il y a 3 semaines, Vladimir Poutine a ordonné, avec une date limite au 30 novembre prochain, la création d'un lieu à Moscou tout entier dédié à promouvoir, je cite, le théâtre patriotique moderne. Anissa El-Jabri, Moscou, RFI.
En Hongrie, haro sur les ONG, les médias indépendants et certaines entreprises. 3 mois après l'avoir promis, le gouvernement d'extrême droite de Viktor Orban s'apprête à voter une loi sur la transparence de la vie publique. Un texte qui prévoit que le Bureau de la protection de la souveraineté puisse décider arbitrairement de cibler des organisations qui reçoivent des fonds étrangers, y compris européens. Transfert de donateurs bloqués, comptes gelés, les sanctions se multiplient et la Commission européenne dénonce une violation grave des principes et du droit de l'Union européenne. C'est un reportage de Florence Labruyère à Budapest pour RFI.
C'est en plein centre-ville de Budapest, dans le quartier des théâtres, qu'est située la rédaction du journal web 444. Avec 1,5 million de visiteurs uniques par mois, c'est l'un des médias indépendants les plus populaires de Hongrie. Il est connu pour ses articles d'investigation. L'une de ses enquêtes a d'ailleurs poussé la présidente de la République à démissionner il y a 2 ans. Pas étonnant que ce journal web soit ciblé, comme tous les médias indépendants, par une nouvelle loi. Une loi dont le vote a été repoussé, mais la menace est là, comme une épée de Damoclès. Gabor Kardosh est le directeur du média.
So the law actually, the draft actually listed those thematic territories that they dislike. From talking empathically about Ukraine, which is labeled war propaganda, or talking empathically about the LGBTQ community, which is also labeled gender propaganda. So these were very vaguely and broadly specified territories that they want us to discontinue. But technically, the proposal was aiming at the funding itself.
En Hongrie, les médias pouvaient jusqu'ici recevoir des dons de fondations étrangères ou participer à des projets européens financés par Bruxelles. Mais sous prétexte de protéger la souveraineté nationale, la future loi interdit ce type de financement aux organisations qui seront mises sur une liste noire. Or, le journal 444 est partiellement financé par des fonds européens. C'est ce qui lui a permis de créer un deuxième site web qui s'appelle LACMUS et qui lutte contre les fausses nouvelles. Gabor Kardosh.
So LACMUS is our fact-checking website, which is a part of the Hungarian Digital Media Observatory, which is the official hub of the European Commission-funded European Anti-Disinformation Network. Every single country in the European Union has developed a hub that was responsible for fighting against the ever more significant disinformation spread that is characterizing the European media landscape. And it is true that LACMUS has no other direct revenues than institutional. So yes, LACMUS's future would be directly endangered.
Pour le gouvernement Orban, la liberté d'expression représente un danger, surtout quand elle est soutenue par des financements étrangers. Agoston Braz est le directeur de Nezepont, un institut de recherche financé par le parti de Viktor Orban. Selon cet analyste, les ONG et les médias jouent un rôle dans la vie publique et dans les élections. Il faut donc les empêcher d'être influencés par des forces étrangères, y compris par l'Union européenne.
My personal opinion is that it is a bad development that the European Union is financing media outlets in the member states. This is not the European Union I am dreaming of. I think the European Union should be the guardian of the law, but should not finance media outlets, because if they start financing it, the discussion will be always in the room, whether they are biased or they are independent. And if you see the list which media outlets are financed by the European Union, you will find that they are totally against the government in office. So it is very one-sided.
Marton Karpati est directeur de Telex, un portail d'information indépendant. Avec ses émissions sur YouTube et ses nombreux podcasts, Telex est très populaire chez les moins de 40 ans. Pessimiste, Marton Karpati pense que la loi finira par être votée.
They put a gun on the table. We don't know if they're gonna use it, but it's on the table, it is loaded, and they can just pick it up anytime and point at anyone, and if they want to use it, they will.
Telex est financé à 60% par la publicité, mais ses recettes publicitaires pourraient tomber sous le coup de la loi.
Un reportage signé Florence Labruyère. Et un monde de tech, c'est avec vous Théo Renaudon. Bonjour Théo.
Bonjour Alban.
Théo, vous nous parlez d'une innovation qui s'appelle Arta. Aujourd'hui, elle permet aux aveugles de percevoir leur environnement grâce notamment à l'intelligence artificielle, encore elle, des lunettes qui, grosso modo, permettent à un aveugle ou un malvoyant de sentir ce qu'il y a autour de lui. Alors comment ça marche?
Alors Alban, ce sont des lunettes qui ont une petite caméra intégrée, caméra reliée à un ordinateur dopé à l'intelligence artificielle qui lui-même est connecté à une ceinture très spéciale. Pour tout comprendre, direction l'Institut des Jeunes Aveugles à Paris, où le dispositif est testé dans le jardin, les ingénieurs à l'origine du produit, et Antoine, 15 ans, qui va nous aider.
Ma maladie, c'est une vitréo-rétinopathie exudative familiale. J'ai perdu entièrement la vue de l'œil droit et une grande partie de celle de l'œil gauche.
Donc vous n'êtes pas capable de vous déplacer sans une canne blanche pour détecter?
Oui, à l'extérieur, c'est obligatoire d'avoir une canne.
Donc du coup, on a mis la ceinture haptique dans le bas du dos de notre testeur.
Là, qu'est-ce qu'on entend, Arthur?
Alors là, c'est les solénoïdes, donc c'est des petits picots qui, on pourrait dire, clignotent, enfin tapotent dans mon dos afin de dessiner ce que la caméra voit. Par exemple, si je regarde dans le vide, on les entend plus parce que donc il y a rien à décrire. Mais si je regarde une personne, il dessine en soi la forme de la personne. Ça marche comme un second cerveau. Donc, le cerveau classique interprète les informations que lui envoient les yeux. Là, c'est l'ordinateur qui interprète les informations que lui envoie la caméra et les dessine dans le dos. Donc, il ne reste plus que mon cerveau à moi pour interpréter ce dessin et pouvoir me le représenter dans ma tête, donc avec mon imagination.
Donc, vous arrivez vraiment à créer de véritables images?
Moi, en tout cas, oui.
Voilà. Antoine, il est déjà habitué au produit, hein. Ça fait une petite dizaine de fois qu'il le teste, comme 350 autres malvoyants et aveugles. Mais la promesse des créateurs, c'est prise en main rapide et progression avec le temps.
Alors Théo, ce qu'Antoine teste ici, c'est un prototype.
Ouais, c'est fabriqué à la main, mais une version industrielle doit sortir dans l'été, plus discrète, moins bruyante, prévue pour la vie de tous les jours. Et ça plaît beaucoup à Antoine.
En fait, on est vraiment invisible. On peut pas détecter forcément qu'on est déficient visuel.
Vous souriez beaucoup quand vous en parlez.
Parce que moi, c'est ce que ça me plaît, ça. Enfin, j'aimerais bien être dans la rue et que personne sache que je suis malvoyant. Ça, c'est quelque chose qui me saoule un peu. Genre, au lycée, avec une personne, j'ai une collision et qu'elle s'excuse, mais différemment qu'avec une autre personne. Parce qu'elle a compris tout de suite que j'étais malvoyant.
coûtent ces lunettes à leur sortie 2600 euros plus un abonnement de 300 euros par mois pour les mises à jour. Louis Deveyron, cofondateur d'Arta, nous explique pourquoi c'est si cher et nous dit que le dispositif va évoluer dans le temps.
Aujourd'hui, on bosse sur les trous. Comment percevoir les nids de poules? Comment informer l'utilisateur d'une information qui est en négative?
Voilà, si vous nous écoutez et que ça vous intéresse, ces lunettes donc portent un nom, Arta. Vous pouvez les retrouver facilement sur Internet.
Merci beaucoup Théo Renaudon. Et avec notre invité culture, le journaliste et écrivain Christophe Comte, nous revenons sur la mort de Brian Wilson, le génie des Beach Boys. Il avait 82 ans et on peut dire qu'il a changé la face de la musique pop avec les Beach Boys et leurs harmonies vocales parfaites. Il fut dans les années 60 un orfèvre des mélodies et des arrangements. Grâce à lui, les Beach Boys ont été le groupe américain ayant vendu le plus de disques dans le monde. Retour donc sur ce parcours hors norme avec Christophe Comte, spécialiste du rock au micro d'Edmond Sadaka.
Bonjour Christophe Comte, que retenez-vous en tout premier lieu de cette carrière hors norme de Brian Wilson ?
Avant tout, c'était un musicien qui a eu d'une certaine manière deux vies parallèles, c'est-à-dire une vie de faiseur de tubes, notamment dans la première partie des années 60 avec les Beach Boys, où il a écrit la bande-son de l'Amérique, de cet hédonisme américain, du surf, des voitures et de la Californie. Et à partir de 65-66, c'est devenu un créateur d'une musique que personne n'avait entendue. C'est une musique qui partait de la base des Beach Boys, mais qui allait bien au-delà des Beach Boys. C'est un des rares compositeurs de la sphère de la pop à avoir eu, par exemple, les salutations de Leonard Bernstein à l'époque, qui avait remarqué son génie de la composition. Donc c'est forcément l'album Pet Sounds qui est son chef-d'œuvre. Et à partir de là où il aurait dû, disons, passer dans une autre dimension, et le problème c'est que cet album Pet Sounds a moins bien marché. Et que sa famille, parce que ce groupe, il était aussi fondé par ses frères et son cousin, d'une certaine façon, et on l'a accusé d'avoir, d'une certaine manière, cassé la poule aux œufs d'or. It starts with just a little glance now.
Right away you're thinking about romance now. Et ces accusations, Christophe Comte, eh bien, il les a forcément très mal vécues.
Oui, et il s'en est pas vraiment remis. Après, ça a été un vrai drame, parce que d'une certaine manière, il est rentré dans une longue période de dépression, même s'il a fait des choses merveilleuses après. Tout a joué contre lui, d'une certaine manière. Il a fait un album qui s'appelait Smile, qu'il n'est jamais parvenu à terminer. Et après, ça a été une escalade comme ça.
Ça ne l'a pas empêché, en tout cas, de revenir des années plus tard, avec notamment un disque solo.
Oui, il est revenu à la fin des années 90 avec un album assez remarquable. Et puis ensuite, à partir des années 2000, il a eu une autre vie beaucoup plus apaisée. Il a connu enfin à la fois la reconnaissance mondiale de la part de tous les artistes de son œuvre et de son génie. Et il a connu aussi ce qu'il n'avait pas connu du temps des Beach Boys, parce qu'il avait arrêté la scène très tôt, il a connu la ferveur du public.
Oui, un public qui avait été très sensible, je crois, aux périodes très sombres qu'il a traversées.
Oui, mais Brian Wilson, c'est quelqu'un que les gens ont vu souffrir beaucoup. Et la souffrance est très difficile à voir, surtout pour quelqu'un qui n'a voulu que le bien des autres, quoi. C'était quelqu'un d'assez naïf, et c'était tout sauf un type cynique ou quoi que ce soit. Donc, quelque part, il y avait de l'affection pour lui.
Merci, Christophe Comte.
Merci, au revoir. The wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations.
Comte, spécialiste du rock, qui nous racontait la vie et l'œuvre de Brian Wilson, génie des Beach Boys, qui est décédé à l'âge de 82 ans.
Vous écoutez RFI Midi.
Et dans un peu plus d'une demi-heure, maintenant à 14h30, heure de Paris, midi et demi, temps universel, ce sera Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sueur.
Bonjour Alban Le Prince.
Et à la une de l'actualité aujourd'hui.
Au Mali, le Conseil des ministres adopte un projet de loi qui donne un mandat de président de 5 ans pour le général Assimi Goïta, un mandat renouvelable, sans élection, jusqu'à la pacification totale du pays. Et puis la chef de la MONUSCO est attendue à Goma, 5 mois après que la capitale du Nord Kivu ait passé sous le contrôle de l'AFCM-23. Bintou Keïta doit s'entretenir avec le patron de ce mouvement armé, Corneille Nangaa.
Merci beaucoup Nicolas Sueur. À tout à l'heure, midi et demi, temps universel. Avant le retour de l'actualité dans moins de 5 minutes, un petit peu de musique avec Toto la Momposina. Vous écoutez Mami Wata sur RFI. C'était Toto la Momposina, Mami Wata sur RFI. Restez avec nous. Dans moins de 2 minutes, c'est le Grand Journal International avec Olivier Sherman. À tout de suite.
RFI, la sélection du mois.
Manu Desroches.
Vivre avec ce qui autour nous annouerait. Vivre avec ce qui autour nous annouerait.
Lady Donnelly. Caraméloco.
Par-delà les constellations, les trous noirs et les voies lactées, surgit le fruit de la passion.
Pierre Quenders.
Toute la sélection du mois à découvrir sur RFI Musique.
Vous avez moins de 30 ans, résidez dans un pays d'Afrique et souhaitez publier votre premier roman ? La cinquième édition du prix Voix d'Afrique est lancée. Ce prix littéraire, initié par RFI et les éditions Lattès, en partenariat avec la Cité internationale des arts, est destiné aux jeunes auteurs du continent africain. Envoyez-nous dès maintenant votre roman sur le site édition-jclattès.fr, rubrique Prix Voix d'Afrique. C'est peut-être vous, la nouvelle Voix d'Afrique.